Bonjour à tous et bienvenue à ce culte glorieux et merveilleux d'enseignement du mercredi 24 avril. Alléluia. Vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Gloire à Dieu. J'aimerais que nous puissions lire dans les Écritures des vérités très profondes, merveilleuses, qui changent notre manière de voir.
Amen.
Car Dieu a prévu quelque chose pour nous de phénoménal, vous voyez. Et donc, nous devons comprendre quelle est la transcription de ce que Dieu a pour nous, et spécialement dans ces derniers temps. Et la responsabilité qui nous en est confiée juste derrière. Amen. Donc, si on peut prendre Éphésiens, chapitre 4, et verset 7. Éphésiens 4, 7. Parce que votre vie doit refléter ce que Christ a fait. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 4 verset 7, « Mais à chacun de nous, la grâce a été accordée selon la mesure du don du Christ. » Dites « La grâce m'a été accordée. » Non selon mes œuvres, mais selon la mesure du don de Christ. Donc la grâce, qui est censée être continuellement croissante, est le résultat du don de Christ. Vous suivez jusqu'ici? Donc le don de Christ nous donne accès à cette grâce. Et quelle est l'œuvre de cette grâce? Prenez juste Romains 1 rapidement. Romains chapitre 1. Et vous allez aller au verset 5. C'est pour cela que votre vie doit être le reflet de ce que Dieu a fait pour vous. Parce que sinon votre vie va être inutile. Et la grâce de Dieu va également être inutile. C'est important ça. La Bible dit, c'est par lui, donc Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous avons reçu la grâce et l'apostolat afin de susciter pour son nom l'obéissance de la foi dans toutes les nations. On comprend donc quelque chose de merveilleux ici. C'est que la grâce nous est donnée dans un but évangélistique et prosélytique. Souvent, les gens n'aiment pas le terme prosélytique parce qu'on en a fait une injure. Mais c'est pas une injure. Prosélytique, ça veut juste dire répandre sa foi. Amen. J'aimerais qu'on prenne Romains 12, verset 3. Le prosélytisme veut dire répandre sa foi. Et Dieu nous a donné sa grâce à des buts évangéliques, évangélistiques même. Et le chrétien a reçu la grâce du don de Christ. Et ceci, ça casse un peu ce faux enseignement que pas tous les chrétiens sont censés amener des gens à Christ. C'est faux. Ou que pas tous les chrétiens sont censés grandir dans la parole pour l'enseigner. C'est faux. Parce que la Bible est claire qu'on a reçu la grâce et l'apostolat afin de susciter l'obéissance de la foi dans les nations. Et vu, comme on l'a vu dans les Écritures, que le Saint-Esprit a déversé et nous a attribué la grâce en selon le don du Christ. Et il précise bien à chacun de nous. Ce qui veut dire qu'aucun chrétien a plus de grâce que l'autre. Par contre, certains ont une grâce qui a été multipliée par la connaissance de Dieu. La grâce multipliée ne veut pas dire qu'il y a plus de grâce. Il veut dire simplement qu'elle est plus forte, qu'elle a plus d'intensité. Comme un muscle, en fait, tout le monde, tous les êtres humains ont le même nombre de muscles, n'est-ce pas? Il n'y a pas un être humain qui a un muscle de plus. Sauf bien sûr pour des malformations imprévues, mais tous les humains ont reçu des muscles spécifiques. Et en les entraînant, ils peuvent avoir plus d'impact que d'autres. C'est pourquoi certaines personnes soulèvent plus dans des entraînements sportifs que d'autres. C'est pour ça que certaines personnes courent plus vite que d'autres. Mais en soi, les muscles sont les mêmes, c'est juste qu'ils ont été travaillés différemment. Vous avez trouvé Romains 12, verset 3:1. Vous savez, on lit les choses rapidement. Pourtant, vous écoutez, hein, pourtant, on doit laisser chaque mot des Écritures nous faire une image. Regardez bien ce qu'il dit ici. Juste les trois premiers mots. Par la grâce qui m'a été accordée, et on sait qu'on a la même nous, je dis à chacun d'entre vous, donc, peu importe en fait ce qu'il a dit après, dans le cadre de ce sujet, de ce message, et de cette conceptualisation qu'on fait de la grâce, parce que il dit, par la grâce qui m'a été accordée, je vous dis. Donc il sous-entend que son discours était le résultat de la grâce de Dieu. Vous voyez un petit peu l'idée? Allons juste, Romains 11, 29. Et j'aimerais juste que vous compreniez que la grâce, par exemple, la Bible nous montre clairement que la grâce est la source de la bénédiction de l'Éternel. Jusque-là, on est d'accord, hein? Dites la grâce est la source de la bénédiction de l'Éternel. La grâce est également, par exemple, la source de notre santé. Elle est la source de toutes ces choses. Donc, un chrétien est millionnaire par grâce. Mais il faut comprendre pourquoi Dieu a donné cette grâce. Parce que vous voyez, bien que Dieu ait en tête votre bonheur sur terre, ce qui compte ultimement pour le Seigneur et pour nous aussi, c'est ce qui se passe après le ciel. Et ça, c'est donc le ciel. Ce qui se passe après cette partie du ciel qu'on appelle la terre. Vous savez que vous êtes déjà au ciel en soi, hein. Vous manifestez le ciel sur terre. Mais la chose étant, c'est que Dieu a en tête le gain d'âme, par exemple, parce que il y a un avenir après la mort. Parce qu'il y a une vie après la mort, ou plutôt une existence. Ça peut être la mort après la mort, hein. C'est pour ça que Dieu a en tête notre prospérité. Et donc, Dieu a en tête cette grâce. Oh là là, c'est merveilleux. Cette grâce, elle vous permet de dire l'évangile. Elle vous donne la puissance de partager l'évangile. Dites, j'ai la grâce. Et donc cette grâce, c'est pour ça que cette grâce vous rend riche. Parce qu'en étant riche, vous pouvez sponsoriser l'évangile. C'est pour ça que cette grâce vous rend fort. C'est pour ça que cette grâce vous construit. C'est pour ça que cette grâce vous rend audacieux. C'est pour ça que cette grâce est puissante, parce que justement, elle vous pousse à faire ce qui est juste. Regardez juste Romains 11, cette fois, verset 29. C'est quelque chose de phénoménal, vous savez. On doit laisser vraiment la parole de Dieu nous définir. Quelqu'un a trouvé Romains 11, 29? Il est dit, car les dons de la grâce et l'appel de Dieu sont irrévocables. Donc là, il fait une alliance directe entre les dons de la grâce et l'appel de Dieu. Direct. Vous savez cette idée que le chrétien moyen n'est pas censé évangéliser et gagner des âmes? Il y a des gens, il y a même des gens qui ont quitté notre église à cause de ça, hein, parce qu'on enseignait ça. Il y a des gens qui ont quitté l'église parce qu'on enseignait que tous les chrétiens doivent être productifs pour l'évangile. En disant, non, on n'est pas censé gagner des âmes. Le chrétien ne doit pas gagner des âmes. C'est faux. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de chrétiens ne marchent pas dans la bénédiction que Dieu a pour eux. Parce que la grâce, on l'a reçue, vous voyez, mais elle est efficace quand on la travaille. Et donc, cette grâce peut ne porter aucun fruit. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, cette grâce envers moi n'a pas été vaine. Au contraire, j'ai travaillé plus que eux tous. Pourquoi est-ce qu'il dirait une chose pareille? Parce que la grâce peut être vaine dans la vie d'une personne. Et le fait que la plupart des chrétiens ne voient pas la santé, ne vivent pas dans la richesse, ne vivent pas dans ce que Dieu a fourni dans le respit au travers de la grâce, c'est parce qu'ils ne gagnent pas d'âme. Parce que si vous croyez que vous avez reçu la grâce, et cette grâce, elle a été donnée pour l'apostolat, vous allez gagner des âmes. Et une personne, un chrétien qui ne gagne pas d'âme, soit il n'est pas chrétien, c'est possible, il y a des faux frères, la Bible nous dit, ou alors c'est une personne qui ne comprend pas la grâce. Parce que la Bible dit dans Tite chapitre 2, versets 11, 12, 13, que la grâce de Dieu est apparue à tout homme enseignant à renoncer aux impiétés et à vivre de manière pondérée, juste et pieuse dans le temps présent ou dans le siècle présent. Donc la grâce vous pousse, vous, à vivre d'une manière pieuse et les autres à vivre d'une manière pondérée, juste. Et elle enseigne. Et la Bible dit clairement dans Actes 21, je crois, de tête, prenons juste cette écriture, un instant, je l'ai souligné dans la Bible, c'est sûr. Acte 20, pardon, verset 32. Et maintenant, je vous confie, voyez, à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance de construire et d'assurer un héritage parmi tous ceux qui sont consacrés. Notez qu'il est dit de construire, pas de construire un héritage, hein. Donc d'un côté, elle construit l'individu, et d'un côté, elle assure l'héritage. C'est pas construire et assurer un héritage, vous voyez? Construire et assurer ne sont pas ensemble par rapport à l'héritage. L'héritage est le complément de verbe de assurer un héritage, de fournir un héritage, vous voyez? L'héritage ne concerne pas la construction, parce que la construction de l'héritage est faite en Christ. Dieu, un héritage fini. On ne peut pas avoir plus d'héritage en Dieu. Et donc, la grâce de Dieu est apparue à tout homme. Et cette grâce, elle nous pousse. Et c'est pour ça que cette même grâce qui fournit la santé, cette grâce, vous savez que Dieu vous veut tellement riche que vous pouvez assujettir des pays. Vous savez que la Bible dit ça? Non, franchement, vous savez qu'il y a un passage biblique qui dit ça? Je vais vous le montrer. Prenons Hébreux, regardez, vous allez voir. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2 et verset 8 que nous sommes sauvés par la grâce au travers de la foi, n'est-ce pas? Alléluia. Prenons à partir du verset 1. Or, la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère. L'attestation des choses qu'on ne voit pas. Donc là, Dieu nous dit que la foi ne consiste pas à espérer que quelque chose arrive, mais que c'est l'attestation des choses qu'on ne voit pas. Donc c'est des choses. La foi consiste à voir la grâce de Dieu. Et quand nous voyons la grâce de Dieu avec nos yeux spirituels, on agit en conséquence. Alléluia. C'est par la foi, vous voyez. Donc là, il rentre dans une réflexion par rapport à la foi. Prenez Hébreux 11, 32. Que dirais-je encore? Le temps me manquerait, en effet, pour passer en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes, eux qui par la foi, regardez bien, vainquirent des royaumes. Donc vous savez qu'on peut assujettir un pays avec la foi. J'aimerais juste qu'on prenne la version Darby, parce que vous savez, la version Nouvelle Bible Seconde est excellente. Cependant, dans la formulation, il manque des fois des éléments un peu plus précis de langage. Par la foi, subjuguèrent des royaumes. La foi est si forte, et vous savez, pour subjuguer un royaume, il faut être très puissant, très riche, très intelligent. Et c'est comme ça qu'ils ont subjugué des royaumes. Donc, la grâce de Dieu, et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne vivent pas dans ce que Dieu a pour eux. C'est une réponse à beaucoup de questions, ça. Parce que la grâce a une utilité. Dieu ne nous met pas juste dans la santé divine pour rire. Parce que si c'est ce qu'il voulait, juste notre santé divine, et il le veut, hein, il nous emmènerait tout de suite au ciel. S'il voulait juste notre prospérité, qu'il ne voulait pas qu'on gagne des âmes, qu'on n'avait pas une œuvre à faire sur terre, dès que quelqu'un viendra en Christ, instantanément, il serait traduit et enlevé au ciel. Tout de suite. Immédiatement. Parce que c'est là que la vie est plus simple au ciel. Il n'y a pas de démons, pas de péché, pas de mauvaises pensées, pas de pensées non renouvelées, pas de réflexions mondaines, pas de gens méchants. Il n'y a rien de tout ça au ciel. Donc si Dieu voulait juste qu'on jouisse de la prospérité au travers de son salut, parce que vous voyez, c'est là ma grosse différenciation, et j'insiste, avec ce qu'on appelle l'évangile de prospérité, qui d'ailleurs n'est pas un terme biblique, hein, soit dit en passant. Les gens ont dit ça parce qu'ils disaient, vous enseignez que Dieu veut qu'on prospère, ce qui est un fait biblique, hein. Dieu veut que vous soyez riche, riche, riche. Mais la question est pourquoi il veut ça? Parce qu'une fois au ciel, le concept même de richesse est ancré, vous voyez? Vous voulez une maison telle, je prends un exemple un peu exagéré, mais vous voulez une maison en marbre aujourd'hui, pouf, vous l'avez. Vous voulez je sais pas, aller vous balader dans l'univers, pouf, vous pouvez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le concept de manque ou même de besoin n'existe pas. Et en fait, si on enseigne la richesse, c'est parce que la richesse est conceptualisée parce que le manque existe. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont riches ou très riches. C'est pour ça aussi que si on prend dans les standards, peut-être que dans cette pièce, on n'est pas tous millionnaires, mais je peux vous garantir que dans un standard historique, vous êtes tous très riches. Historiquement. Parce que la plupart des gens dans l'histoire ont toujours été pauvres, 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 pauvres. Vous voyez? Ah, ou prenons encore maintenant au niveau juste géopolitique, prenons l'ensemble de la population. Les gens dans cette pièce sont plus riches que les gens, tous les gens dans cette pièce sont dans le top 1% de la population mondiale. Hein. Ça, c'est sûr, juste en étant en Suisse. Il suffit que vous n'ayez pas de dette et 100 balles dans votre compte, vous êtes dans le top 1% de la population du monde. Donc ça vous dit qu'en fait, le concept de richesse est lié au manque, vous voyez? Donc, c'est-à-dire que si Dieu nous veut riches, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais vous voyez, Dieu a jamais dit je suis riche. Parce que pour lui, c'est sa nature même d'avoir toutes ces choses. Donc, quand Dieu veut que vous marchiez dans la prospérité sur terre, c'est pour son évangile. Ou notre évangile plutôt. La Bible dit que c'est notre évangile. Amen. Donc, cette grâce de Dieu qui est apparue à tout homme, elle doit être mise en action par l'évangélisation. Et quand vous allez avoir l'envie d'amener des âmes à Christ, et vous savez, il y a plusieurs manières d'amener des âmes à Christ. Hein. Vous pouvez l'amener vous-même, par exemple, n'est-ce pas? Vous amenez l'âme à Christ. Vous pouvez donner, par exemple, pour les missionnaires qui vont avec les rhapsodies des réalités dans les contrées perdues, c'est une manière de gagner des âmes. Vous pouvez également influencer d'une autre manière. Prenons un exemple assez intéressant. Imaginons que vous faites une école ou une crèche chrétienne, gratuite. Ça nécessite des finances, mais imaginons-le. Vous pouvez gagner des âmes comme ça. Ce que j'entends, c'est qu'il n'y a pas juste, et c'est là l'erreur aussi, c'est que on est censé influencer notre monde pour l'évangile. Et c'est là qu'en fait, on utilise vraiment la grâce. Et c'est là qu'en fait, le concept de besoin disparaît. En fait, c'est littéralement ce que David dit, hein, quand il dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit littéralement, pourrait traduire par je n'ai aucun besoin. Ça veut dire que le concept de besoin disparaisse. Vous avez besoin d'un million pour faire ci? C'est là. Vous avez besoin d'une voiture pour faire ci? C'est là. Vous avez besoin de santé? Mais de toute façon, là, vous devez aller prêcher. Amen. Vous voyez? Et donc, Dieu a mis en nous cette grâce pour qu'elle soit utilisée pour, rappelons-nous quoi? L'obéissance de la foi dans toutes les nations. Donc, Dieu a prévu cette obéissance de la foi dans les nations au travers de la grâce qu'il a déposée dans notre esprit. Et le truc, c'est que pour sortir cette grâce de votre esprit, ça nécessite des actions de foi. Et pour Dieu, une action de foi, alors oui, certes, ça peut être donné, par exemple, pour l'évangile, ou par exemple, bouger si on est malade, ou je connais des gens, par exemple, qui ont enlevé leurs lunettes parfois, et c'est très beau tout ça. C'est des choses qui sont justes. Et il y a plus profond, par contre. La vraie manifestation de la foi, c'est qu'on sait que Dieu veut que tous soient sauvés, 1 Timothée chapitre 2, verset 4, et qu'ensuite, on amène les gens à Christ et on croit que cette grâce transforme leur vie comme il a pu transformer la nôtre. Et c'est là qu'on commence à avoir beaucoup plus de témoignages. C'est là qu'on commence à avoir beaucoup plus d'efficacité. C'est là qu'on commence à avoir une vie littéralement de gagneur d'âmes. Dites, je gagne des âmes. Vous voyez, vous devez gagner des âmes. Vous savez, c'est important. Le chrétien qui ne gagne pas d'âmes est un chrétien sec. qui ne progresse pas. Et ce n'est pas ce que Dieu a pour vous. Vous avez vu le nombre d'âmes que j'ai gagnées, vous? Vous savez, hein? Pourquoi? Et en plus, est-ce que j'ai forcé et puis fait le gars bizarre qui est dans la rue et tout? Non, non, vraiment pas pour le coup. Il y a une là. Vous voyez, non. Alors, il y a rien de mal d'aller dans la rue, hein, n'est-ce pas? Mais ça me fait mal au cœur parce que la plupart des chrétiens veulent gagner des âmes. La plupart veulent. C'est juste qu'ils ne savent pas comment faire. Et je vous avais dit qu'on aurait une conférence une fois sur l'évangélisation où on va vous expliquer précisément comment gagner des âmes. J'étais à un mariage une fois d'un ami proche depuis mon enfance. Et à ce mariage se trouvaient des amis à lui, bien sûr, et il est chrétien, lui, 13 ans. Il est enfant de Dieu, il aime Dieu de tout son cœur. Et il y avait de ses amis qui étaient là, vous voyez. Et un de ses amis était non sauvé, non chrétien. Et je parle avec lui, et il y avait un autre de ses amis, donc on était 3 au total. L'autre ami était enfant de Dieu. Vous voyez? Et il avait une perception, ou plutôt une perspective, devrais-je dire, de l'évangile qui était altéré par rapport à la réalité. Donc, par exemple, on parlait de la santé divine. Et vous voyez, l'évangile de Jésus-Christ est somptueux à part ça. C'est pas juste un truc qui nous fait pardonner nos péchés, puis on va dire, non. Et il me disait, mais alors tu penses que Dieu ne veut pas qu'on soit malade? J'ai dit, non, bah, je pense, je sais, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit, ah, alléluia. Et il dit, mais alors comment on meurt? Je dis, vraiment, t'as pas besoin d'être malade pour mourir. Hein. Regardez Moïse. Dieu a dit, va sur cette montagne et meurs. Il a fait, mais Seigneur, je veux voir le pays promis. Il a fait, je t'ai dit, va sur cette montagne et meurs. Il a fait, ok. Donc il a escaladé la montagne il y a 120 ans. Il s'est couché, puis il a dit, bon, ben, ok. Et il est mort. Vous voyez? Donc il a commandé sa propre mort, vous voyez? Donc déjà, on n'a pas besoin d'être malade pour mourir. Mais surtout après, il m'a fait, pourquoi on n'est pas censé mourir? Et il l'a dit d'une manière pas moqueuse, mais vous voyez, genre, tu vois, qui croirait ça? Et là, j'ai dit, non. Vous auriez dû voir sa tête. On n'est pas censé mourir? Vous savez que la Bible dit que vous n'êtes pas censé mourir. Hein. Je sais que ça paraît dingue, dingue, dingue. Il y a des chrétiens, oh, oh, j'ai jamais entendu ça. Eh bien, pourtant, la Bible dit qu'on est censé vivre jusqu'au retour du Christ. Hein. Même l'apôtre Paul a dit, certains d'entre vous, vous allez être là. Et il parlait à des gens. Et vous savez, l'apôtre Paul, il était... Oh, j'aimerais tellement vous montrer cette profondeur ce soir. Est-ce qu'on peut regarder un petit peu rapidement? Dites Alléluia. Regardez quelque chose. L'apôtre Pierre nous donne... dans 2 Pierre, quelque chose d'absolument phénoménal. Parce que souvent, il y a des gens qui disent « On ne connaît pas quand Jésus revient. » Ah bon? Est-ce que la Bible dit ça? Les gens vont utiliser ce verset où il dit « Le Fils de l'homme ne sait ni le jour ni l'heure. » Ça vous dit quelque chose, hein? Mais notez bien, le Fils de l'homme, pas le Fils de Dieu. Est-ce que Dieu sait quand l'enlèvement aura lieu? Oui, évidemment qu'il sait. Ça me paraît logique, vous voyez. Il a une date précise dans son calendrier. Ok, même s'il n'avait pas une date précise, il sait quand même quand ça va arriver. Voyez. Et donc, regardez ce que l'apôtre Pierre dit au sujet de Paul. Parce que souvent, on pense que Paul il était un peu benêt, il ne savait pas vraiment ce qui se passait. Donc là, dans 2 Pierre chapitre 3, verset 3, vous savez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de moqueries qui iront au gré de leurs propres désirs et diront « Où est la promesse de son avènement ?» Donc le retour du Seigneur. « Car depuis que les pères se sont endormis dans la mort, nous demeurons comme depuis le commencement de la création. » Et donc là, je vais alors pas aller dans la profondeur, mais en gros, là, pendant tout le chapitre 3 jusqu'au verset 13, l'apôtre Pierre parle du retour de Jésus, du retour du Seigneur. Et là, il précise, à partir du verset 14, aussi bien-aimé dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvé par lui sans tache et sans défaut dans la paix. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit dans la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets. De quels sujets? Alors de bien, bien des sujets, mais notamment le retour du Christ. C'était vraiment l'eschatologie, donc l'étude. L'eschatologie, c'est l'étude de la fin des temps, était une des expertises de Paul, hein. L'expertise de Paul numéro 1, c'était la grâce et la foi. Son expertise numéro 2, qui bien sûr ne viennent pas dans un ordre spécifique, était la fin des temps. Paul enseignait énormément sur la fin des temps. Énormément. C'est même lui qui a eu la révélation de l'enlèvement. Vous avez remarqué que Jésus n'a jamais parlé d'enlèvement lui-même? C'est Paul qui l'a eu, la révélation de l'enlèvement. Tout comme il avait eu la révélation de ce qui s'est passé la nuit où Jésus a été livré. C'est le niveau que Paul avait. C'est pour ça que moi, quand je verrai Paul au ciel, je pense que je vais me courber devant lui par respect. Parce que waouh, quel genre de vie il a vécu, quoi. Il s'y trouve des passages difficiles à comprendre dont les gens ignorants et mal affermis tordent le sens, comme ils le font aussi pour les autres écritures. Donc là, il vient de dire, si jamais, que les écrits de Paul sont des écritures divines. Hein. C'est intéressant quand on lit vraiment bien. Donc, écoutez bien ce qui se passe. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15? Il a dit, donc l'apôtre Paul savait quand Christ reviendrait. Hein. Il nous a fait des messages très clairs, l'apôtre Paul, de quand Christ reviendrait. Hein. Il avait une idée claire. Et Christ revient bientôt, pasteur Christ nous a bien expliqué ça. Le retour du Christ est si imminent qu'on peut le sentir, qu'on peut le toucher. Et donc, l'apôtre Paul connaît toutes ces choses et il dit « Certains d'entre vous ne mourrez pas. » Pourquoi est-ce qu'il a dit une chose pareille, Paul? Sachant que Christ allait revenir bien après, en termes de centenaires, de, voyez, de millénaires. Parce qu'il s'attendait qu'avec son enseignement, des gens ne meurent pas. Vous voulez que je vous montre dans les Écritures? Vous voyez, c'est ça le problème, c'est que là, ce que je vous dis, ça paraît absolument dingue. Dieu ne veut pas qu'on meure. On est censé vivre éternellement jusqu'au retour du Christ, c'est-à-dire 500 ans, s'il revient dans 500 ans. Ok, prenons les Écritures. Dans la Bible, est-ce qu'il y a des gens qui mourraient à 900 ans? Oui. Donc ça veut dire que et c'est pas 900 ans, Jean. Parce que, ouais, mais c'est en fait, c'était des manières différentes de compter les années. C'est faux, hein. C'était 900 ans. On en a pour preuve qu'ils ont eu des enfants, n'est-ce pas, dès l'âge de 20 ans. Donc ça veut dire que si c'était vraiment mis en truc, ça veut dire qu'il aurait eu quoi, 2 ans quand il a les enfants, ça n'a aucun sens. Donc c'était vraiment des gens qui vivaient 950 ans, littéralement, d'accord? Alors bien sûr, il y a un point intéressant, c'est que les gens vont dire « Oh, mais vous, la Bible dit qu'on peut vivre que 120 ans », ça veut dire quelque chose ce passage biblique. Hein. Mais c'est très intéressant parce que Abraham est né après cette déclaration du Seigneur et il est mort à 180 ans. Donc cette déclaration du Seigneur s'applique à un cadre très spécifique de personnes, c'est les gens qui ne sont pas dans la foi. Et eux, leurs jours sont limités à 120 ans. Ok? Mais donc là, l'apôtre, oh là là, c'est tellement merveilleux. Et là, regardez, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51. Je vais vous dire un mystère. Nous ne nous endormirons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, car elle sonnera et les morts se réveilleront impérissables, et nous serons changés. Donc, il parle des vivants. Donc Paul s'attendait à ce que certaines personnes qui lisaient sa lettre soient encore vivants au retour de Christ. Après, est-ce que ces gens ont appliqué l'enseignement de Paul? Apparemment pas, vu qu'on n'a pas de gens qui ont 2000 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Mais, vous voyez? Il faut en effet, alléluia, que le périssable revête l'impérissable et que le mortel revête l'immortalité. Lorsque le périssable aura revêti l'impérissable et que les mortels aura revêti l'immortalité, alors sera accomplie la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Oh oh! Donc là, il ne parle pas seulement d'une mort spirituelle, il parle aussi d'une mort physique. Hein. Donc le fait que les gens meurent, c'est à cause du péché. Et moi, je pense qu'il y a une raison spirituelle que les gens mouraient si tard, avant. Et c'est marrant parce que quand on lit les Écritures, ça dégraisse chaque fois. Ça commence par 900 ans, après 850, ensuite 700, ensuite 600, 130, ensuite, et tout d'un coup 100, 80, les gens mourraient à 80 ans. Pourquoi? Parce que, vous voyez, les gens comme Adam, Mathusalem, ces gens qui ont vécu des centenaires, moi je pense simplement qu'ils ne savaient pas comment mourir. Aussi bête que ça. Donc ils sentaient une douleur, par exemple, sur leur corps. Et ça les agaçait. Ils n'étaient pas là. Oh, peut-être que c'est ci. Oh, peut-être que c'est un problème de cœur. Oh, peut-être c'est un problème cardiaque. Peut-être c'est un problème de poumon. Peut-être c'est un problème avec, oh, avec mes reins. Ils ne pensaient pas à ce genre de choses-là. Quand ils avaient mal, ils étaient là. C'est quoi? Parce que personne ne leur avait enseigné à réagir à la douleur. Vous voyez? Je pense que c'est une des raisons. Je pense personnellement que c'est une des raisons. Et regardez ce qu'il dit. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Et la Bible dit que nous avons été libérés du péché et de la loi. Et la Bible dit que l'ennemi, c'est la mort. Les gens disent la mort, c'est neutre. Ça nous amène soit vers Dieu, soit à l'enfer. C'est faux. La mort, c'est l'ennemi de Dieu. Hein. Soyez concentrés. Soyez bien concentrés. Et donc là, le chrétien, vous vous rendez compte que vous pouvez vivre éternellement jusqu'au retour du Christ? Et après, les gens disent, j'ai pas envie de vivre si longtemps, on allait de cette terre. C'est parce qu'ils ont une vie nulle qu'ils disent ça. S'ils avaient la vie que Dieu a pour eux, je vous garantis qu'ils voudraient rester sur cette terre et assujettir des pays. Vous rendez compte l'excitation qui vient dans votre tête quand vous pouvez dire, je peux assujettir un pays par ma foi et par la grâce qui m'a été donnée. assujettir un pays. Et rappelez-vous en plus, parce que dans Hébreux 11, qu'on vient de lire, où il parle d'assujettir des pays, il parlait de gens qui étaient sous l'Ancien Testament, pas des gens qui avaient reçu la grâce illimitée. Donc si des gens sous l'Ancien Testament pouvaient assujettir des pays avec une seule parole de Dieu, imaginez-vous maintenant avec l'ensemble de la Bible, avec l'Esprit de Dieu qui vous guide dans la vérité et la grâce de Dieu illimitée qui est apparue. Quel genre de vie allez-vous vivre si vous laissez cette grâce? C'est pour ça que moi je vous pousse tellement à la prière. Qui c'est qui était là lundi? Ben, tout le monde en fait, tous ceux qui sont là étaient là lundi. Lundi soir. Combien d'entre vous êtes restés et avez prié une demi-heure avec nous? Je crois que tout le monde était là jusqu'à la fin. Je sais dans mon esprit que certains d'entre vous n'avaient jamais fait ça avant lundi. Pas d'entre vous ici, hein, je parle des gens qui étaient sur la plateforme. Il y a des chrétiens qui n'avaient jamais prié une demi-heure avec intensité. Est-ce que c'est leur faute? Ça dépend. Non, parce que le chrétien est censé être construit par son pasteur, vous voyez, ou sa pasteur. Le chrétien est censé être dans les Écritures par lui-même, mais il doit être guidé. Rappelez-vous l'homme, l'eunuque sur le char, qui lisait Ésaïe 53. Et Philippe qui vient lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et il répond, donc lui il aimait Dieu, hein, cet homme. Il cherchait Dieu. Et il répond, comment pourrais-je comprendre si personne ne me l'explique? Donc toutes ces paroles que moi je vous explique, c'est pour vous construire dans l'évangile, n'est-ce pas? Donc le chrétien moyen qui ne vit pas dans ce que Dieu a pour lui, alors bien sûr, il y a sa responsabilité individuelle d'aller chercher ce que Dieu a pour lui, n'est-ce pas? Mais il y a aussi la responsabilité de l'homme ou de la femme de Dieu qui ne les guide pas dans toute la vérité. C'est pour ça que moi, je ne vais jamais vous bloquer. La Bible dit, Jésus a dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Même s'il mourrait, il est vivant. Pourquoi il dit même s'il mourrait? Parce qu'il n'est pas censé mourir. Même si ça, il s'arrive qu'il meure, il est quand même vivant dans son esprit, vous voyez? C'est comme quand Jésus a dit un truc merveilleux. Pardon, pas Jésus. L'apôtre Jean, il a dit, si vous péchez, vous avez un avocat au ciel. Il n'a pas dit quand vous péchez. Il a dit si vous péchez. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas censé pécher en tant qu'enfant de Dieu. Non, tant qu'on est dans ce corps, on va pécher. Non, c'est faux. La Bible dit ça nulle part. Il n'y a pas un seul endroit dans les Écritures qui ferait penser ça. J'arrive peut-être à penser à Romains chapitre 7, où l'apôtre Paul dit, ce que j'ai envie de faire, je ne le fais pas. Est-ce que je fais pas? Pardon, ce que j'ai envie de faire, je ne le fais pas. Est-ce que je n'ai pas envie de faire, je le fais. Ô pauvre homme de moi, qui me délivrera de ce corps de corruption? Mais il parlait de l'homme qu'il était sous la loi, pas l'homme qu'il était sous la grâce. C'est pour ça que dans Romains 8, il dit, mais grâce soit rendue à Dieu, qui m'a libéré par la loi de l'esprit. Vous voyez, donc, c'est fini ça. Vous n'êtes pas dans un corps de corruption. Vous êtes dans un corps qui peut être glorifié. Vous savez, Dieu vous a mis, comme Pasteur Christ nous disait, vous pouvez rajouter des années à votre vie, mais vous ne vieillissez plus. Le vieillissement est fini en Jésus-Christ. Vous ne faites que grandir, plus de vieillissement. Le vieillissement, c'est de la décadence humaine. Hein. C'est-à-dire qu'on arrive à un pic, puis après on commence à redescendre. Non. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Amen. La maladie, ou même la vieillesse, je ne parle pas de la vieillesse, donc prendre de l'âge et de la maturité. Hein. Je parle de la vieillesse, donc les gens décrépits avec de l'arthrite, maigres, qui ont perdu toute forme, qui sont tassés sur eux-mêmes, Dieu n'a jamais prévu ça. Et j'en ai pour preuve quelque chose. Si Jésus était resté sur terre après sa résurrection, est-ce que vous pensez qu'il aurait pris de l'âge? Non. Ça nous paraît. C'est ça qui est marrant, c'est que quand on en parle, c'est évident que Jésus n'aurait pas pris de l'âge, qu'il serait resté bloqué entre guillemets à 33 ans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est évident qu'il n'aurait pas commencé à devenir vieux puis marcher avec une canne. C'est logique. Donc il serait comme ça depuis 2000 ans sur un trône à Jérusalem. Vous voyez? Alléluia, cette grâce de Dieu vous transforme. Dites, elle me transforme. Et elle me pousse à gagner des âmes.